Marie-Élisabeth Ducreux est historienne, spécialiste de l'histoire moderne et contemporaine de l'Europe centrale, et particulièrement de la Bohème, fondatrice du CEFRES, le Centre de recherche français en sciences sociales de Prague, au début des années 90. Elle est aujourd'hui directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France. Marie-Élisabeth Ducreux a connu la Tchécoslovaquie pendant la période communiste. Elle partage ses sentiments sur les jours où le régime s'est effondré.
Quand j'ai vu que la manifestation du 17 novembre continuait, c'est-à-dire qu'elle était suivie, il y a eu les répressions policières, puis qu'elle était suivie d'autres manifestations, j'ai compris que quelque chose bougeait. C'était très surprenant d'ailleurs. Et j'ai pris l'avion et je suis venue à Prague. Et donc je suis arrivée le mardi, le 17 novembre était un samedi, donc c'était le 21 novembre. Et à partir de ce jour-là, je suis allée avec mes amis et dans les manifestations, place Venceslas, et puis ensuite à l'Etna. Et d'écrire ce qu'on voyait, ce qu'on percevait, mais vous savez, c'était quelque chose qui était absolument inimaginable 3 jours avant. Donc on vivait l'événement de moment en moment. Et ce que je peux dire, c'est que les gens qui étaient là, autour de moi, ceux que je connaissais et ceux que je ne connaissais pas d'ailleurs, se manifestaient d'une façon complètement différente de ce qu'ils avaient été ou de ce qu'ils semblaient avoir été, même le mois précédent, ou toutes ces années où j'avais fréquenté Prague et la Tchécoslovaquie, des années de normalisation, bien sûr, depuis les années 70. Un exemple, avant même les grandes manifestations sur l'Etna, les manifestations avaient lieu sur la place Venceslas le soir. C'était pas très tard, mais il faisait déjà nuit, puisque c'était en novembre. Les taxis qui passaient dans les rues voisines, les chauffeurs de taxi faisaient lever de la victoire. Les magasins restaient ouverts pour vendre du pain ou pour vendre de quoi manger, ce qui, évidemment, normalement, n'existait pas. À 6 heures, tout était fermé. Les vendeuses avaient le sourire aux lèvres. Tout le monde était absolument souriant, enthousiaste. Quelque chose de très important se passait. Et très rapidement, on a compris, ceux qui étaient dans la foule comprenaient que le régime s'écroulait, que toutes les tentatives de reprendre la main, de négocier, qui ont à ce moment-là eu lieu, avec par exemple Ladislav Adamek. J'ai l'impression que sur le pavé, on savait que c'était déjà trop tard. Hein, les gens agitaient des clés en disant « c'est la dernière sonnerie, hein, Posleni Zvonieni ». Et on avait vraiment l'impression que les cartes étaient tombées et que les seuls à ne pas l'avoir encore compris, ou ils l'avaient peut-être compris mais ils cherchaient à ralentir la chose, c'était le petit secteur, le petit parti de communistes réformateurs qui essayait de reprendre la main. Ensuite, il y avait ces moments absolument invraisemblables de voir sur le balcon de la place Venceslas, Dubček, Havel, Václav Malý, des chanteurs qui avaient dû passer le moment de la normalisation totalement à l'écart. On était dans un présent total, mais dans ce présent, un présent total, hein, mais dans ce présent, il y avait comme une espèce de télescopage du temps. C'est-à-dire, c'était un événement, moi j'avais l'impression de vivre un événement qui n'arrive qu'une ou deux fois par siècle, que d'ailleurs on peut très bien ne jamais vivre dans une vie, hein, et avec des échos qui remontaient à la surface et qui n'avaient pas été perceptibles pour moi depuis les années 70. Tout à l'heure, quand on parlait, j'ai évoqué l'émotion que j'ai pu au moins ressentir en entendant chanter la foule après les hymnes, l'hymne tchèque et l'hymne slovaque, le cantique de Slavin Ceslas, que jamais j'avais entendu. J'avais entendu sur un disque. Et puis comme je travaillais sur la littérature et l'histoire de la contre-réforme, je connaissais aussi les mélodies du XVIIe siècle. J'ai tout de suite entendu ce cantique dans la mélodie du XVIIe siècle, et les gens le connaissaient et les gens le chantaient. Et donc des symboles d'autrefois, même si cette autrefois au fond ne remontait qu'à l'avant-guerre, ou peut-être juste à l'après-guerre, remontaient comme si c'était de nouveau le présent, comme si quelque chose... une identité beaucoup plus forte que les aléas ou les avatars des 40 dernières années qui paraissaient durer toujours, parce que le communisme c'était l'absence de temps, on pensait, c'était fermé par rapport au monde extérieur, et on n'avait pas l'impression que le temps extérieur n'y arrivait pas, si vous voulez. Et tout d'un coup, il y avait une dynamique qui s'était réinstallée et qui avait totalement échappé au régime. Ça, c'était quelque chose de tout à fait saisissant. Une autre chose qui m'a beaucoup saisie, je crois que pendant un mois ou deux mois, les Pragois ont vécu dans la rue. Ils manifestaient, ils vendaient de quoi manger à ceux qui manifestaient, ils fabriquaient des tracts, ils les distribuaient. Et j'ai vraiment l'impression, je me suis posé la question à ce moment-là, qui s'occupe des petits-enfants et des vieux parents? Car tout le monde est dans la rue. Une espèce de, je ne veux pas dire folie, mais une espèce de transport collectif. Absolument imprévisible pour qui connaissait la Tchécoslovaquie normalisée.
Vous avez pris en quelque sorte le premier avion pour venir ici quand vous avez vu que ça commençait à bouger. À Paris, j'imagine que vous étiez dans les milieux universitaires qui s'intéressaient à la région, au monde soviétique, comme on disait à l'époque. Beaucoup de soviétologues de l'époque disaient qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Est-ce que vous avez vu quelque chose venir ou comment les événements ont été perçus dans le monde universitaire français à ce moment-là?
Moi, je peux pas répondre pour le monde universitaire. Vous savez, il y avait les soviétologues, et puis il y avait quelques rares personnes qui travaillaient sur des pays qui n'étaient pas l'Union soviétique. Et tout ça, ça fait pas une communauté, hein. Et ce que je peux vous dire, c'est que il y avait eu des événements. Il y avait eu Solidarność, il y avait eu l'état de guerre en Pologne, il y avait bien sûr eu l'arrivée des Russes en 68 à Prague, et puis le printemps de Prague avant. Et puis il y avait ce qui se passait l'année d'avant, la transformation du régime politique en Hongrie, déjà, plus ou moins, mais c'était toujours les communistes. Mais il y avait une transition qui s'était mise en place depuis 88. Il y avait eu les tables rondes en Pologne. Il y avait eu bien sûr la perestroïka à Moscou, mais les Tchèques disaient encore en 89, début 89, qu'est-ce qui différencie Gorbatchev de Dubček? Et la réponse c'était rien, sauf que Gorbatchev ne le sait pas encore. Donc en fait, cet événement-là, la destruction du mur de Berlin, et puis la révolution de velours, c'était pas prévisible. On voyait bien que les Allemands de l'Est venaient à Prague, venaient en Hongrie, allaient en Allemagne de l'Ouest, contournaient le mur depuis l'été 89. J'ai passé tout le mois de septembre 89 à Munich. Et là, des éminents juristes, politologues et même hommes politiques allemands venaient nous parler de toutes sortes de choses. Et j'ai entendu à ce moment-là certaines personnes, certains Allemands, donc dire que oui, un jour il aurait la réunification, et nous étions en septembre 89. Mais pour quand ça sera, c'est absolument imprévisible. Et voyez, même pas deux mois après, c'était fait. Donc je pense que non, l'événement lui-même, la façon dont il s'est déroulé, ça n'était pas du tout prévisible. Et reconstruire une logique, on peut le faire a posteriori, mais sur le moment, il y a eu une rupture.